Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aurélie Godefroy et j'ai l'immense plaisir d'animer ce podcast autour des sorcières. Un podcast en trois parties. Le premier sur l'histoire des sorcières avec Catherine Clément. Nous verrons dans le second épisode les rituels avec Katia Boukchich, qui nous accompagnera également dans le troisième afin d'évoquer ce que l'on appelle la magie verte. Ce podcast est édité par Inexploré. Vous le retrouverez sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour les abonnés. Pensez à nous soutenir pour profiter de tout l'univers inexploré, des articles, des podcasts et nos magazines trimestriels en format papier et numérique. À l'évocation du mot sorcière, notre imagination commence à frétiller. Crainte ou moquée, condamnée ou idéalisée, les sorcières hantent l'imaginaire collectif depuis la nuit des temps. Si on continue, petits et grands, à se délecter de ces histoires de fées qui peuplent nos contes, l'histoire de celles qui furent qualifiées de sorcières n'a pourtant rien d'un conte de fées, rien qui puisse prêter à sourire. C'est l'histoire abominable de femmes qui furent envoyées par dizaines de milliers au bûcher. Leur délit, c'était simplement d'être femme, Catherine Clément ?
Oui, absolument oui. Plusieurs papes en ont décidé ainsi, oui. Leur culpabilité première, c'est d'être femme.
Alors, ce livre, effectivement, traite d'un sujet quand même assez grave, puisque je crois que c'est le plus grand féminicide de l'histoire. Mais en même temps, on rigole beaucoup. Alors, je pense que vous allez partager avec nous quelques anecdotes savoureuses de ce...
Mais on rigole beaucoup parce que les hommes sont drôles. Les hommes qui brûlent, enfin, c'est affreux ce qu'ils font. Mais ce qu'ils disent est absolument hilarant. Enfin, par un effet de distance séculaire, par le fait qu'on n'en est plus là, bien sûr, mais ils disent vraiment des âneries d'où est sorti quand même tout le comportement des hommes jusqu'à maintenant. Mais des âneries considérables.
On va les écouter. Mais alors déjà, finalement, cette construction de la chasse aux sorcières, elle est liée à l'Église elle-même, puisque tout vient d'un pape, donc c'est le Innocent VIII, en 1484. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Alors, il y en a un autre avant qui s'appelle Jacques d'Huez, qui est le pape. Ce pape, vous l'avez sûrement vu, si vous avez vu Les Rois Maudits, c'est celui qui fait semblant d'être vieux et malade pour être élu pape. Hein, il est élu à 74 ans, il meurt à 99 ans. Enfin, 94, je crois. Et entre-temps, c'est lui qui déclare que la sorcellerie est une hérésie. On est en 1328, c'est une hérésie. Ensuite, il y a Innocent VIII, qui était un pape très superstitieux, et qui déclare que la sorcellerie étant une hérésie, il faut faire la chasse aux... Enfin, il faut débusquer les sorcières femmes. Quelques hommes, il y a toujours une proportion d'hommes. Il y a toujours une proportion d'hommes dans une cérémonie féminine. Toujours, un ou deux. Généralement des déviants. Mais en tout cas, la chasse est ouverte par cet Innocent VIII. Cette bulle s'appelle « avec nos ardeurs les plus ardentes ou les plus furieuses ». C'est une bulle de fou. Et c'est en 1484 et en 1486, deux ans plus tard, deux inquisiteurs qui existaient déjà à l'époque ont rédigé en deux ans un énorme traité de chasse aux sorcières, enfin un manuel d'inquisition. L'inquisition, ce sont les dominicains. C'est pour ça que les bulles des papes sont importantes, parce que avant l'inquisition, c'était personne, c'était le lynchage au village. Qui a existé très longtemps, très très longtemps, qui peut exister encore dans certains coins. Ce sont des processus très collectifs. Mais la régulation, si on peut dire, la chasse aux sorcières bien ordonnée, bien faite, sérieusement, hein, avec tous les critères, c'est dans le manuel qui s'appelle Le marteau des sorcières.
Catherine Clément, vous avez un extrait à nous lire, on vous écoute.
Pourquoi, dans le sexe si faible des femmes, trouve-t-on davantage de sorcières que parmi les hommes ? Il ne sert à rien, en effet, d'apporter des arguments en sens contraire, puisque l'expérience elle-même, en plus de paroles dignes de foi, rend crédibles de tels témoignages. Disons, sans mépriser un sexe en qui Dieu, pour notre confusion, a toujours fait des œuvres de puissance, que là-dessus, des raisons diverses sont alléguées par des gens divers, toujours cependant concordant pour le principal. D'où aux femmes aussi la chose est bien prédicable, elles aiment elles-mêmes en entendre parler, comme l'expérience l'a souvent prouvé, pourvu qu'on la propose discrètement.
Alors, on va y revenir, mais avant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la place des médecins est là dès le départ. Enfin, ils prennent une place tout de suite, hein, en même temps
alors,
que le clergé.
Elle est discrète parce que ce sont les grands ennemis des inquisiteurs. Là, on est au au début du XVe siècle, en gros. C'est la chasse aux sorcières, elle est plus tardive. Elle démarre vraiment en Europe au XVIIe. Mais restons à cette époque. Oui, il y a toujours des médecins, un médecin au moins, pour dire, mais c'est pas du tout la sorcellerie, elle est malade, elle est démente. Il y en a un qui est formidable, qui s'appelle Michel Maresco, et qui fait disparaître les démons en appuyant toutes ses forces sur la tête de la possédée.
C'est une façon de procéder,
attends,
effectivement.
Attends, mais c'est pas tout. À ce moment-là, elle se calme, elle devient très calme, et absolument désolée, l'inquisiteur qui est là dit, ce n'est plus que Marthe. C'est absolument formidable, ça.
Et alors, ce marteau des sorcières, donc ce manuel, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'il est conséquent, là, vous l'avez amené avec vous, effectivement, je vois que vous l'avez beaucoup annoté. Qu'est-ce qu'il raconte, ce marteau des sorcières? Alors, est-ce qu'il y a les sentences? Comment est-ce qu'on reconnaît une sorcière? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce que ça nous raconte?
Ce serait ça. Si c'était ça, ça serait très bien. Mais c'est un fatras. C'est un fatras d'anecdotes, de jurés reçus de la bouche d'un témoin qui était là, qui était le petit-neveu de la femme du docteur. Enfin, c'est des choses absolument irréelles. Ça n'est pas ordonné. C'est faussement ordonné. Donc, c'est très difficile à lire parce que c'est incohérent. Mais de A à Z. Avec des déplorations parce que des sorcières vivantes n'ont pas été brûlées et que je la connais, la sorcière, elle est toujours là. Elle m'a fait disparaître mon pénis, mais elle est toujours là. C'est ce style-là, hein. Quand même. Et on peut en lire d'autres, hein, si vous voulez. Ah si, il y a aussi ça. La femme, qu'est-elle d'autre que l'ennemi de l'amitié, la peine inéluctable, le mal nécessaire, la tentation naturelle, la calamité désirable, le péril domestique, le fléau délectable, le mal de peinture peint en couleur claire. D'où, puisque la renvoyer est un péché et qu'il faut la garder, alors notre tourment est fatal. Ou bien commettre un adultère pour la répudiant, ou bien vivre dans des disputes quotidiennes. Tullus Cicéron dit aussi dans ses rhétoriques « Les nombreuses passions de l'homme le conduisent chacune à leurs vices, mais une seule passion conduit les femmes à tous les vices. À la base de tous les vices des femmes, il y a la jalousie. » Sénèque dit aussi dans ses tragédies « Une femme, où elle aime, où elle est, il n'y a pas de troisième voie. » C'est bon ce truc, hein ?
Ouais, c'est super, ouais.
Au centre du livre, il y a le membre viril, qu'il s'agit de protéger puisque c'est lui le héros.
Donc le sexe masculin ?
Le pénis, le phallus, comme vous voulez. Dans le texte, c'est le membre viril. Je tiens quand même au texte, il faut rester comme ça. Jusqu'à un passage que, si vous voulez, je pourrais retrouver, dans lequel les inquisiteurs mesurent la hauteur de l'érection pour décider si c'est une impuissance physiologique ou satanique.
Alors, on trouve aussi dans ce marteau des sorcières deux caractéristiques et aussi des précautions à prendre avec les suspectes, le silence et les larmes.
On va dire deux, entre autres, parce que dans ce fatras, il y a toujours les points importants.
Deux principales, oui.
Qui sont assez simples, finalement assez simples et épouvantables quand on réalise qu'on demande à une fille ou une femme ou une vieille qui est en face de vous. Alors, vous êtes en face de moi, maintenant, s'il vous plaît, pleurez. Là, tout de suite. Vous pleurez pas ? Ben, vous êtes une sorcière. Voilà. C'est assez simple. Hein. Et si vous pleurez, c'est peut-être des fausses larmes. Donc on va vérifier, on essuie tout et on recommence. Seules pleurent les innocentes, sur commande. Hein. C'est le premier critère. Le deuxième, cette assiturnité. Beaucoup de ces sorcières étaient des paysannes, souvent analphabètes, comprenant pas forcément la question qui leur était posée. Maintenant, répondez. Vous répondez pas ? Ben vous êtes une sorcière. La taciturnité.
Donc ça, c'est les deux critères principaux.
C'est les critères d'approche. Après, bien sûr, il y a la torture. Mais je n'ai pas trouvé dans ce marteau des sorcières les marques du diable, choses qui doivent être dans d'autres traités. Celui-là, c'est le plus diffusé. Il y a même une version de poche pour aller dans la soutane, une version mini pour aller dans la poche de la soutane. Et il a été en activité jusqu'en 1669, ce qui est quand même, en France en tout cas, ce qui est quand même sidérant comme longévité.
Et qu'est-ce que ce marteau des sorcières nous dit sur la torture quand même ?
Elle doit être décente, figurez-vous. Elle doit être décente. Et par exemple, un exemple de décence qui est bien mentionné, parce que Jeanne d'Arc court dans le bouquin sans être jamais nommée, hein, et considérée comme sorcière alors qu'elle n'a pas été jugée pour sorcellerie du tout. On a bien fait de brûler Jeanne d'Arc sur une place publique, pas devant une église, ça c'est décent. La salle de torture doit être décente, bien mesurée, bien carrée, pas accueillante, hein, mais propre, pas comme un souillon. La torture, c'est scientifique. Et c'est vrai, ça l'est. C'est scientifique.
Et alors, enfin, quel y a pas détail de... on nous donne pour ces tortures ?
Non, il n'y a pas énormément de détails. Il n'y a pas plus de détails que, dans, que de ce qu'on connaît sur la torture, les bois, enfin, la torture classique. En France, parce que les façons de torturer étaient tout à fait différentes selon les pays. En Allemagne, à Osnabrück en tout cas, dans la ville d'Osnabrück, sur laquelle Hélène Cixous a travaillé en parallèle pendant que je faisais mon musée des sorcières à moi, on balançait les sorcières à l'eau en attachant l'orteil, le gros orteil, au pouce. Prenez 2 secondes pour essayer de vous représenter ce que ça fait quand on a le gros orteil attaché à un pouce. Et hop, à l'eau. Donc vous voyez, il y a des variantes. Il y a des variantes. Ce sont des variantes sur le schéma originel, disons, qui est on attrape le lynchage du village, on attrape la sorcière, on la tue, on la met au feu. Ou à l'eau. Mais en France, c'est au feu.
Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est aussi les sages-femmes qui sont pointées du doigt par les démonologues.
Oui, parce que mais les sages-femmes, elles sont, si j'ose dire, naturellement avorteuses. Ça soulève pas d'ailleurs de, ça soulève pas de manifestations spectaculaires d'hostilité. C'est pas complètement anormal, quand même. Quand on pense que la grande impératrice Marie-Thérèse a eu 16 enfants, quand même. Hein. Bon, et c'était le sort des femmes. Les épouses étaient condamnées à avoir un enfant toutes les années et demie à peu près. Enfin, sans arrêt. C'est le cas de Marie de Lesinska, donc ça va des reines aux paysannes, c'est pareil. Donc une reine ne se fait pas avorter, ça se fait pas, mais une paysanne, oui. Et les sages-femmes sont d'excellentes avorteuses, c'est le même travail. Hein. Elles savent comment fonctionne l'intérieur d'une femme.
Bon, en tout cas, elles incarnaient le mal absolu, hein, aux yeux des monologues.
Aux yeux des dominicains qui sont des curés, des prêtres. Donc, aux yeux d'hommes chastes, vous voyez la chasteté. C'est quand même important de préciser ça. Oui, les avorteuses, c'est en un sens légitime.
Alors, il y a un personnage qui a joué un rôle important. C'est notre ami, si j'ose dire, avec des gros guillemets, Pierre Delancre. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ?
Ah, il faut le situer d'abord. Pierre Delancre est un érudit très cultivé qui a fait des études en Bohême, des voyages en Italie. Qui appartient à la famille de Montaigne, notre Montaigne, dont il a épousé la petite nièce, et qui est magistrat au Parlement de Bordeaux. Il est spécialiste des choses bizarres, hein, les hommes-loups, des trucs comme ça. Et c'est lui qu'Henri IV, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi c'était Henri IV, envoie purger le Pays basque de ses sorcières. Le Pays basque, à l'époque, s'appelle le Pays du Labour. L-A-B-O-U-R-D. Les sorcières du Labour. Et il y va. Il y va avec son intelligence, son bon parler, sa belle écriture, parce qu'il écrit remarquablement. Et il y reste 4 mois. Il arrive en juin. Attendez, non, il arrive en juin. Et il trouve les femmes du labour seules. Les maris sont partis pêcher la baleine. À Terre-Neuve, c'est pas la porte à côté. Vous verrez que la baleine joue un rôle très important. Alors déjà, il les trouve seules, c'est un péché. Elles osent sortir dehors, c'est un péché. Elles osent sortir tête nue décoiffée. Et elles ont des belles boucles. Il décrit les boucles avec un amour absolument incroyable. C'est un péché. Elles mangent des pommes. C'est un péché. Ça, vous voyez pas pourquoi. Hein.
Oh bah, si, quand même. Ça me rappelle une certaine Ève, oui.
Voilà, exactement. Elle mange les pommes et elle se baigne dans la mer. Et ça, c'est plus compliqué. La mer, c'est diabolique par rapport à la terre, dit-il. Et visiblement, il dit ça comme si c'était une vérité admise. Et ça doit l'être, hein, ce genre de choses. Donc voilà l'inquisiteur complètement fou, parce qu'il n'a pas de traité avec lui. Il fait ça dans le désordre. Il fait ça à l'instinct. Et il fait ça surtout au désir sexuel, lui. Lui, il a plein de désirs sexuels et ça se voit quand on le lit, c'est absolument évident.
Alors, notamment quand il nous parle du sabbat, bien évidemment, et de la sarabande. Il y a une description, page 39 de votre livre.
Parce que oui, il ne va pas au sabbat, mais il prend des petites filles qui ont été au sabbat et il fait raconter le sabbat par des petites filles de 10-12 ans, ou 8-10 ans. Et elles dansent, on se sabbat, on danse dans toute l'Europe, on danse la sarabande d'ailleurs à ce temps-là, cette époque-là.
Ce qu'il écrit hein, dans votre livre, c'est la danse la plus lubrique et la plus effrontée qui se puisse voir, laquelle des courtisanes espagnoles s'étant depuis rendues comédiennes ont tellement mis en vogue sur nos théâtres que maintenant nos plus petites filles font profession de la danser parfaitement. D'ailleurs, c'est la danse la plus violente, la plus animée, la plus passionnée et dont les gestes, quoique muets, semblent plus demander avec silence ce que l'homme lubrique désire de la femme que tout autre. Il nous ferait pas des petites projections quand même, Pierre de Lancre, là ?
Bah oui, tout le temps. Mais ça, il en fait plus qu'un inquisiteur dominicain qui est quand même un peu plus, disons, de devoir de réserve. Mais il n'y a pas que ça, on saute dans la sarabande. Et donc c'est une danse qui fait avorter. Comment ne le sait-on pas que on avorte quand on danse la sarabande ? Vous voyez bien que tout tourne là, c'est pas le membre viril, aussi c'est le sien à vrai dire. Hein. Ça tourne pas autour de la bandaison du sexe, mais ça tourne autour de tout ce qui le fait frétiller, lui. Et ce qu'il aime, ce sont les danses à distance, lentes, les danses guerrières. Donc il aime les haka. Voilà, les haka des équipes de Nouvelle-Zélande.
On avance et on peut dire que notre salut en Europe vient de Madame de Montespan. Vous allez nous en
raconter l'histoire. Elle est très inattendue, celle-là.
Elle est très inattendue. Donc là, on est à la fin du XVIIe siècle.
Entre-temps, il y a eu tout un défilé de possédés et de diables, de dénonciations en tout genre, d'injustices absolument hurlantes, de choses monstrueuses comme d'exhumer un cadavre pour le faire brûler sur un bûcher parce qu'il est déclaré sorcier après sa mort. Chose folle, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de ça. Les possédées étant toujours dans le même état, les possédées, elles sont dans l'état de cette fille qui s'est mise en prière pour la victoire de Donald Trump et qui s'appelle Paula White et qui est sa conseillère spirituelle. Il ne faut peut-être pas aller chercher si loin. Hein.
Donc, Madame de Montespan, revenons-y. Grâce à elle, les choses se sont un peu améliorées, on peut le dire.
C'est aussi un monde à l'envers, quand même.
Alors, rappelons qui est Madame de Montespan.
C'est la deuxième favorite de Louis XIV, dans l'ordre chronologique, la première étant Louise de la Vallière. Elle est installée, la Montespan, Athénaïs de Montespan. Elle est drôle, elle est blonde, elle est charnue, mais elle est très drôle, hein, surtout. Et donc, elle est favorite depuis longtemps. Elle a eu 7 enfants du roi. Donc le roi ne peut pas faire n'importe quoi avec ses 7 enfants, ses bâtards royaux. C'est compliqué, ça. Et il est déjà dans une liaison sentimentale avec Madame de Maintenon. Nous en sommes là. Ce dont la Montespan s'aperçoit très vite. Et donc, elle est soupçonnée et dénoncée pour appartenir au vaste cercle des empoisonneuses de la fameuse affaire des poisons. Alors, à ne pas confondre, il y a eu 2 dénonciations. La mère a été dénoncée. On l'appelait la voisin, elle s'appelait Catherine Dehaye, dite la voisin. Et celle-ci a une fille, et c'est la fille qui dénonce Madame de Montespan, qui fait apparaître le nom de Madame de Montespan. Dans le discours de la mère, il y a les femmes de magistrats qui empoisonnent leur mari, il y a les femmes des nobles de Versailles qui empoisonnent leur mari, ce qui avait été très bien mis en évidence dans un feuilleton franco-américain qui s'appelait Versailles. On voyait très très bien l'importance des empoisonnements familiaux à Versailles, ou des suicides d'ailleurs, si les nobles se ruinaient au jeu. Donc la poudre d'empoisonnement avait une grande grande place. Et puis le roi s'aperçoit que ça touche à sa vie privée. Et là, il fait rédiger par Colbert d'abord un mémoire pour exonérer Madame de Montespan et surtout une ordonnance générale publiée en 1682 et qui interdit les accusations de sorcellerie. C'est pas interdire la sorcellerie, c'est interdire toute accusation de sorcellerie.
Mais c'est déjà un pas.
Ah ben c'est pas un pas, c'est un gouffre. On change le monde. Pour ceux que ça intéresse, Madame de Montespan est quand même restée à Versailles, elle a organisé des fêtes, mais elle a déménagé, elle loge dans une soupente et le roi épouse Madame de Maintenon.
Alors, nous voici à la Révolution française et la déchristianisation, pardon. Qu'est-ce qui se passe pour nos sorcières ? Donc, effectivement, les accusations sont interdites, mais comme vous dites, ça n'empêche pas les châtiments et d'être encore traitées de manière compliquée.
Il n'y a plus d'accusations de sorcellerie, mais les diableries continuent dans un endroit très inattendu qui sont les monastères de Port-Royal. Les monastères jansénistes, avec leur réputation de pureté immaculée. Je dois dire, ça m'a bien fait rire, ça, je dois dire. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand je suis tombée sur Sœur Flavie Passard est la grande vedette de Port-Royal de Paris. Elle a des illuminations, elle a des guérisons magiques. Elle pratique les guérisons magiques à tire-larigot. Et c'est une fille pauvre. C'est-à-dire qu'il y a un mélange dans les sœurs entre les très nobles et les très pauvres. Sœur Flavie Passard est très pauvre. C'est donc à elle que revient la diablerie. Et c'est elle qui va dénoncer ses sœurs comme ayant franchi la barrière de l'hérésie. Pas l'hérésie sorcière. Une hérésie qui touche à un point du dogme chrétien. Je pense que c'est très compliqué d'entrer là-dedans. Il s'agit de savoir si on a part à la volonté de se sauver ou si on est totalement incapable de se sauver, si on est tellement misérable que seul Dieu peut vous sauver, ou Dieu vous fait la grâce de vous sauver, Ça, c'est le jansénisme. Si vous n'avez pas la grâce, eh ben, excusez-moi, mais allez vous faire voir. Et au contraire, les jésuites de l'autre côté disent, mais si on peut acquérir la grâce. Il suffit de volonté de travail. Voilà, il y a les volontaristes d'un côté et les fatalistes de l'autre. Alors, il y a très longtemps que Louis XIV, tout jeune, hein, il a su, parce que les jansénistes, les vieilles nobles jansénistes étaient des amies de sa mère. Elles avaient toutes fait la fronde contre lui, enfant. C'était toutes des frondeuses. Donc il les surveille, il voit qu'elles sont toutes à Port-Royal. Donc il dit c'est une république dissidente. Il a tout à fait raison. Port-Royal est une république dissidente et fabrique de la sorcellerie. Alors ça s'appelle magie. La nièce de Pascal a été guérie d'un abcès à l'œil par Sœur Flavie Passard, bien entendu, et c'était considéré comme miracle, et ça a été un miracle attesté, alors que c'était purement mécanique, l'abcès à l'œil.
Donc là, on observe une espèce d'évolution de la forme de
c'est-à-dire ce que j'appelle les diableries, ou les acrobaties, si vous préférez, les acrobaties corporelles des femmes qui pourraient être sorcières, ça continue. Ça a pris une forme religieuse, mais ça continue. Sauf qu'il y a un roi qui est appelé l'homme ennemi, quand même. Hein. Elles appellent le roi l'homme ennemi. Le roi les dissout, rase Port-Royal. Il a bien compris que c'était un républicain, ce truc. Il a bien compris que ça. Que l'idée, c'était de se passer de roi. Et il fait exhumer les cadavres. Et là, ça repart.
Pardon, il fait exhumer les cadavres où ?
Pardon, il fait exhumer les cadavres et enterrer dans le cimetière de Port-Royal des Champs. Il y a quand même 3000 corps qui sont entourés là. Il les fait tous exhumer, et puis ils sont transportés en charrette, et puis il y a des bouts de morts qui tombent, et puis il y a des paysans qui ramassent des petits bouts d'ossements, et commence le culte des reliques. Par le culte des reliques, on retombe dans le sabbat. C'est quelque chose qui vous fait revenir à l'époque du sabbat. Il y a des autres petits ossements de morts. C'est quand même très, 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 très suspect. Et ça repart, le jansénisme repart, tout à fait clandestin, condamné, minoré, absolument rebelle, et il fait des choses extraordinaires, il fait faire des choses extravagantes à des femmes. Volontairement, masochistement, elles se font fouetter, lapider, chauffer la tête, brûler les pieds, transpercer, il y a des kilomètres d'archives qui décrivent ça. Et elles sont aidées par ce qui s'appelle les secours, chose très intéressante. Il n'y a que les femmes qui sont percées, et les secours sont toujours les hommes.
On est quand là ? C'est quelle date ?
On est en 1700. On est juste à la veille de la mort de Louis XIV. On est en 1710. Il meurt en 1715, et ça continue jusqu'en 1822 quand même.
Et alors, quand arrivent ces convulsionnaires de Saint-Médard, qui ont une place importante dans votre livre ?
Exactement, hein, là, à cet endroit-là. Donc le roi meurt. Les bataillons jansénistes flanqués sont toujours là dans Paris. C'est surtout Paris. Hein. C'est quand même un phénomène. Ils sont 10 000 en tout, ce qui est beaucoup, mais ils sont ou parisiens ou lyonnais. En tout cas, à Paris, quelqu'un de la très haute noblesse décide de mourir de faim. On peut dire ça comme ça, en tout cas. Mourir de chasteté, il refuse tous les honneurs, il refuse d'être devenu militaire, il refuse absolument tout ce qu'on lui propose. Il s'appelle François de Paris, avec un A majuscule et un chapeau, Paris. Et il est considéré comme saint. Il donne tous ses biens aux pauvres, il file lui-même la laine, enfin bon, il recoud des bas, avec l'argent qu'il gagne, il le donne aux pauvres, et il ne mange que des légumes bouillis. Finalement, il meurt de faim. J'ai découvert à cette occasion que l'odeur de sainteté, c'était ce que donnait un cadavre quand on mange que des légumes. Donc c'est une chose. Donc il est mort en odeur de sainteté. Il a donc été.
C'est le cas de le dire.
Il a été immédiatement considéré comme ça. Oui, mais ça, écoutez, nous sommes de fines personnes extrêmement délicates. Si on nous compare à nos ancêtres qui se coltinaient ça quand même. Le type meurt, il sent bon, c'est un saint. Voilà, c'est très simple. Et on commence à déchiqueter son corps, et à déchiqueter son lit, et à déchiqueter tout ce qu'il faut. Et on va sur sa tombe. D'abord, on va sur l'endroit où il est enterré sans tombe. Puis, il y a une tombe. La tombe, elle est un tout petit peu oblique. C'est une table oblique. Il y a 4 piliers en dessous. Elle n'est pas pleine, donc on peut se glisser sous la tombe, on peut se coucher sous la tombe, on s'y couche tout juste retroussé, on s'y couche à plein, et on fait des séances de transe collective, cul nu, quasiment.
Donc, des femmes ?
Des femmes. Il y a un homme. Il y a un jeune homme. sur un millier de femmes. Donc le roi fait d'abord fermer l'église de Saint-Médard, puis on fait fermer le cimetière de Saint-Médard, mais dès qu'il y a une messe, hop, tout le monde passe dans le cimetière, donc il fait fermer l'église Saint-Médard, et ensuite il dissout tout ça, il essaye de chercher où sont ces diables et ces diablesses. Ils sont partout, et surtout dans les hôtels particuliers. C'est très à la mode, hein. C'est un peu comme, qu'est-ce que je vais dire, le yoga maintenant, hein. Ça circule absolument partout, et ça fait des miracles absolument partout.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de pulsions autodestructrices de ces sœurs convulsionnaires. Bah, enfin, c'est qu'en fait, elles se font du mal à elles, hein, aussi.
Bah, attendez, c'est la base même. Il faut qu'elles souffrent. Elles doivent souffrir. Elles doivent souffrir. Il faut souffrir pour la grâce, même si ça ne donne rien, il faut souffrir pour la grâce. Donc elles se font crucifier avec des vrais clous dans les mains. Quelquefois, ce sont des clous ronds. Quelquefois, quand ça ne fait pas assez mal, on prend des clous à tête carrée. Ça fasse vraiment mal, pour que ça élargisse la blessure. Elles se font, alors elles ont inventé un truc, elles se font transpercer, pas transpercer l'épée perçant le ventre, mais l'épée recourbée appuyant sur le ventre. Ça fait quand même mal, hein. Et elles appellent ça percer. Bon, ça, j'ai mis quelques extraits dans mon livre qui sont même illisibles, tellement c'est dur quand même. C'est un condensé de souffrance extravagant. Toujours sur les femmes, toujours volontairement, et toujours avec l'aide des hommes qui sont les bons secouristes.
Donc ça reste quand même, d'une certaine manière, dans la chasse aux sorcières. On est d'accord?
Pas encore, puisqu'on ne les chasse pas. On ne les chasse pas, on ne les pourchasse pas. Il y a la police. La police fait son boulot, une ramasse de temps en temps, une ou l'autre. Il n'y a pas de chasse organisée. C'est en liberté. C'est en liberté clandestine, planquée.
On arrive au 19e siècle.
Ah, doucement, la Révolution.
Ouh, alors, allez-y.
Vous sautez à pieds joints.
Oui, vous avez beaucoup de choses à raconter. Il faut quand même préciser que ce livre est très dense, passionnant, mais il y a tellement d'informations.
Mais là, j'en ai rajouté qui ne sont pas dans le livre, figurez-vous.
En plus. Alors, on vous écoute pour la Révolution.
Jean de Lumeau, qui était un historien du christianisme, disait que même avant la Révolution, la France était commencée à se déchristianiser. Donc c'est très important de comprendre, parce que ça permet de comprendre pourquoi la Révolution peut éclater. Ça permet de comprendre que les gens déchristianisés, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de... Bon, c'est libre, si vous voulez, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Et ça donne ce genre de folie convulsionnaire. À la Révolution, tout bascule. Tout bascule, il y a quand même deux prophétesses, dont une qui est la conseillère de Robespierre. Alors celle-là est très intéressante quand même. Elle s'appelle Catherine Théot, elle dit qu'elle est la mère de Dieu, et c'est elle qu'on va prendre comme prétexte pour entraîner Robespierre dans sa chute. Si elle est la mère de Dieu et qu'elle est copine de Robespierre, un jour elle va le dire, oui, elle le dit, Dieu c'est Robespierre. Et voilà, il y a quelqu'un à la Convention qui s'empare de ça, et il est arrêté pour ça. Chose très touchante. S'agissant de Robespierre, il prend le temps, alors qu'il sait qu'il va y passer à la guillotine, il prend le temps de sauver cette femme qui a 78 ans et de la faire reconduire chez elle. Je trouve que c'est un...
C'est élégant.
Voilà, je trouve que c'est bien. Bon, la Révolution bouscule tout. Et après, il y a le retour de la monarchie, qui ne se fait pas sans peine, puisque tout ce qui est pouvoir divin de la monarchie a fondu quand même. On essaye bien de... Louis XVIII ne peut pas toucher les écrouelles parce qu'il ne peut pas bouger, il est trop gros. Charles X, on essaye de lui faire toucher les écrouelles. Les écrouelles, ce sont des bubons tuberculeux dans le cou. Ça prend dans le cou, ça donne un goitre, mais suppurant. Henri IV, pour se donner une figure de roi, revenons à lui un petit peu, avait touché des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'écrouelles. Il faisait ça tout le temps. Parce que c'était un droit divin, c'est ça qui signe la divinité du roi. Il touche les écrouelles, on les guérit. Ça marche ou ça marche pas, la question n'est pas là. Hein. Mais c'est le toucher du roi. Donc Louis XVIII ne pouvait pas. On a essayé sur Charles X, il a trouvé ça dégoûtant. Il a fait ça une après-midi, puis après il s'est carapaté. Donc ce sont des royautés qui ne sont pas ancrées dans le sacré. Donc les royalistes ne sont pas très contents. Et les royalistes, un gros groupe, disons, de royalistes met en tête que le dauphin est toujours vivant. Vous savez, le fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI, le petit Louis XVII, qui en réalité est mort au Temple en 1995, mais ces gens-là sont sûrs que... Bon. Et ils en trouvent, bien sûr, ils trouvent des faux dauphins. Il y en a toujours. Hein. Ces gens-là, on les appelle des survivantistes. Ils sont, non seulement ils sont royalistes, ils sont plus que royalistes, ils veulent restituer la royauté sacrée. sacrés, ils ont le doigt dans la magie. Hein. Ils ont le doigt, ils ont mis le doigt dans la serrure, là. Alors, à ce moment-là, et ça n'est pas un hasard, parce que ce sont eux qui suscitent et entourent les premières apparitions, surviennent les apparitions de la Vierge Marie. Les premières hein, sont en 1822 en Anjou, et après ça n'arrête pas jusqu'en 1947, en France, pour parler de la France.
Mais est-ce qu'on peut dire justement qu'on retrouve la sorcière sous les traits de cette Vierge Marie ? C'est quand même assez étonnant d'imaginer c'est la première figure d'impureté qui se mue en figure de pureté absolue.
Oui, enfin, d'abord sur les représentations du corps, il y a de charmantes représentations de sorcières nues, tout à fait chastes, tout à fait bien, qui font l'affaire, hein, s'il s'agissait de prendre une jeune femme. La différence, c'est que la Vierge Marie n'est jamais nue. Alors, prenons une date repère, si vous voulez bien, 1854. C'est là où la papauté, toujours elle, proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, l'Immaculée Conception, ça veut dire que la Vierge Marie, elle-même, est née sans péché. Donc, elle a donné naissance sans péché, elle a conçu sans péché, et elle a été conçue sans péché. Et la vérité est dite, je trouve, par un curé dont j'ai oublié le nom, mais qui est curé à Paris, à qui je voue une grande vénération, qui, quand il a vu ça, a pris un couteau, s'est précipité sur l'archevêque de Paris et l'a poignardé en disant « Abat la déesse !» Et voilà, parce que lui, il avait compris que cette histoire de Vierge Marie, qui n'avait pas été conçue sans péché, c'était le retour du paganisme. C'est ce que dit Michelet à longueur de temps. Michelet explique très bien comment les divinités grecques sont passées dans les saints catholiques. Et donc, quand on est en panne d'inspiration catholique, il y a des apparitions de la Vierge Marie.
Comment est-ce qu'on explique qu'au milieu du XIXe siècle, en fait, on retrouve la sorcière dans les campagnes, sous les traits de la Vierge Marie ?
Alors, donc, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre le fait que la papauté sanctifie la Vierge Marie comme conçue sans péché et les apparitions mariales. Les apparitions mariales, c'est un peu comme ce qui arrive aux sorcières. Ce sont de pauvres filles. Généralement, elles savent pas écrire ou mal écrire. Ça va jouer un rôle considérable dans l'histoire des miracles, des apparitions de la Vierge Marie. Et ce sont des simplettes, disons. Hein. Si j'ai le temps, je parlerai de Bernadette Soubirous, qui pousse la simplicité jusqu'au génie, et je ne me plaisante pas en disant ça. Et donc, un certain nombre de religieuses la voient, la décrivent absolument précisément, et la médaille qu'il faut faire frapper. Et pendant deux ou trois apparitions, il y a toujours un ou deux prêtres pour mettre la main sur les voyants. On les appelle les voyants. Sur les voyants ou les voyantes, il y a des petits garçons quelquefois, mais très peu, et les empêcher de parler. Alors la première dont on a découvert le nom bien après s'appelait Catherine Labouré. Catherine Labouré, c'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Elle a été totalement effacée par son directeur de conscience. Les seconds, c'est la Vierge de la Salette. Il y en a une qui s'appelle Mélanie Calva. Et puis le garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, lui est pris en main par des survivantistes. Il est kidnappé par des survivantistes qui le promènent dans toute la France en disant « Il va reconnaître forcément notre Louis XVII ». Quand ils seront face à face, lui étant illuminé, le petit garçon, par la grâce mariale, et l'autre étant illuminé par la grâce de Dieu, ils vont se reconnaître. Évidemment, ça ne marche pas. Ça marche d'autant moins que le gamin casse le morceau et dit « Moi, j'ai tout inventé ». Donc, ça ne marche pas du tout. Quant à la fille, la Mélanie Calva, ils ont bien vu la Vierge, hein, c'est encore une autre, ils l'ont décrit sa apparition sur ce qui s'appelle un paradis, c'est-à-dire un tas de pierres, qui s'appelle un paradis. Elle veut fonder l'ordre de la Mère de Dieu, et elle écrit des choses tellement violentes, contre les francs-maçons, contre le pape, qu'elle est mise à l'index, et on la balade. Elle a fait le tour d'Europe des couvents pour la faire tenir tranquille, parce qu'elle était intenable. Et elle était folle. Hein, et elle a fini par dire « Oui, je suis la Mère de Dieu, c'est moi qui ai enfanté Jésus. » C'est arrivé. Bon, on la met de côté. Et après arrivent les grandes apparitions, donc Lourdes. Et là, c'est la voyante qui est torturée comme une sorcière, qui est traitée comme une sorcière, puisqu'elle raconte, elle ne sait pas du tout écrire. Elle ne sait même pas ce qu'elle a vu. Elle dit qu'elle a vu la chose. La chose, en blanc, avec une ceinture bleue. Très bien. C'est tout ce qu'elle dit. Elle se ramasse une paire de baffes de sa tante, elle se ramasse des coups de bâton de quelqu'un d'autre dans sa maison. Le lendemain, à l'école religieuse, où elle ne va pas très souvent, elle reçoit une paire de baffes et elle se fait engueuler. Ensuite, elle est interrogée par le commissaire de police, elle va en prison. C'est quand même absolument hallucinant. Et le pompon est quand même atteint, c'est pour ça que je vous parlais de la simplicité des gens simplets. Elle entre au couvent, elle devient religieuse, elle est très sympathique, cette fille. Et on la garde précieusement, parce que naturellement, chaque fois qu'elle sort dehors, on lui arrache des bouts de son don de vêtements pour faire des reliques. Enfin bon, elle pourrait être rouée de coups, tellement elle est désirée. Elle reste donc dans son couvent à Nevers, et à un moment, elle a fini son noviciat. Il faut qu'elle prenne place dans un autre couvent. Normalement, elle doit aller dans un autre couvent. C'est impossible, tout le monde sait que c'est impossible. Si elle va ailleurs, elle se fera dévorer. Par l'adoration, par la haine, enfin par tout mélangé. Et donc, l'archevêque et la supérieure du couvent montent un coup. La formule est, qu'est-ce qu'elle sait faire, celle-là? La supérieure va répondre, rien. Où est-ce qu'on va la mettre? Et la supérieure répond, nulle part. Donc, elle ne sait rien faire et elle est nulle part. Et elle entend ça de ses oreilles. Et elle en souffre. Je pense que c'est une forme de torture assez carabinée quand même. Je ne parle pas de la Vierge Marie, là, je parle de Bernadette Soubirou. Jeune sorcière dévoyée par le christianisme.
Ce qui est intéressant, et vous soulignez ça dans votre livre, c'est que ces apparitions de la Vierge, en général, sont aussi en lien avec la découverte des grottes préhistoriques.
À peu près, c'est Georges Bataille qui a remarqué ça. Ça correspond à la période où on découvre incidemment. On découvre, parce qu'il y a des enfants trop curieux toujours, on découvre les premières peintures préhistoriques. C'est une petite fille qui, en Espagne, trouve les premières. Ensuite, ce sont des... On les appelle aussi des voyants, des découvreurs voyants. Ce sont toujours des enfants pour une raison toute bête, c'est qu'il faut se glisser dans des endroits extrêmement étroits. Donc, ce sont toujours des enfants qui sont en tête de pont pour aller voir les peintures. Et s'il y a énormément de prêtres autour, des prêtres savants, ça, il y a eu beaucoup de prêtres savants au XIXe siècle en France, et au XXe encore plus, et chaque fois, pratiquement chaque fois, les prêtres mettent une statue de la Vierge dans la grotte, à l'intérieur, en face des bisons, en face des dieux cornus et autres.
Alors, on doit déjà finir cet épisode, on a trop peu de temps malheureusement, on aimerait vous écouter plus, mais j'ai envie de vous demander pour terminer si aujourd'hui les sorcières existent encore. Et sous quelle forme, Catherine Clément?
Alors oui, elles existent encore, tranquilles, planquées, pas déclarées à la sécurité sociale. Jeanne Favre-Saalda avait exploré magnifiquement ces femmes-là. Il y a des sorciers de temps en temps. Ils sont des désenvoûteuses ou des ensorceleuses. Et elle en avait trouvé en Mayenne, moi j'en ai trouvé, et elle pensait que ça avait disparu. Non, j'en ai trouvé en Anjou, en août 2019. Donc la même chose. Donc ça, je peux vous dire comment c'est parlé dans le livre de Jeanne Favre-Saalda. C'est encore un français matiné de patois. Maintenant, tout le monde parle très bien en France, malgré tout, particulièrement en Anjou. Donc le langage est parfait. Est-ce qu'il y a une tireuse de cartes par ici? Ah oui, il y a Madame Truc. Elle habite pas loin, là. Mais attention, faut être recommandé, vous n'arriverez pas à prendre rendez-vous sans être recommandé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle machine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire machiner? Elle tire les cartes, elle dit l'avenir, elle guérit. Elle peut faire du mal à distance, quand même. Voilà, tout pareil.
Donc, vous en avez rencontré une récemment?
Ah non, moi, je ne touche pas à ça. Je le raconte, mais je ne touche pas à ça.
Merci infiniment, Catherine Clément. Je rappelle le titre de votre livre sur lequel nous sommes basés pour préparer ce podcast, Le Musée des Sorcières, absolument formidable, à découvrir aux éditions Albin Michel. Je vous invite à poursuivre ce voyage en compagnie des sorcières dans notre seconde partie où nous allons explorer leurs rituels. Après avoir évoqué dans le premier épisode de la série L'Histoire des sorcières, je vous propose de nous pencher sur les rituels indissociables de la sorcellerie. Qu'ils soient en lien avec la lune, les saisons, notre intuition et enfin notre créativité, ils sont multiples et font de plus en plus partie de notre quotidien. Nous sommes aujourd'hui avec Katia Boukchich, psychothérapeute et guérisseuse, à travers notamment des initiations et des rituels de passage. Katia Boukchich, bonjour. Vous avez publié L'éveil des sorcières aux éditions Le Duc.
Alors pour vous, c'est quoi une sorcière exactement ?
Bonjour Aurélie, alors pour moi une sorcière c'est une femme de l'ombre, une femme qui aime l'ombre, qui n'a pas peur de l'ombre, une femme qui va aller déterrer des connaissances qui sont cachées, des connaissances qui sont des tabous, des connaissances subversives qui vont venir bouleverser quelque part l'ordre établi. Une sorcière c'est une femme qui est une femme savante et une femme de pouvoir.
Et donc finalement on peut parler d'archétype de la sorcière.
On peut parler d'archétype de la sorcière qui habite l'inconscient collectif de notre humanité et aussi de femmes qui se revendiquent sorcières parce qu'elles ont des connaissances qui sont intuitives, instinctives et intérieures quelque part. Ce ne sont pas des connaissances académiques.
Alors ces connaissances, elles peuvent les faire surgir à travers des rituels. Il faut quand même expliquer que les rituels sont aussi l'apanage des sorcières. C'est très important dans leur quotidien, dans notre quotidien. Pourquoi c'est aussi essentiel ? À quoi est-ce qui nous relie ces rituels ?
Le rituel, c'est une sorte de célébration quelque part, un moment de dévotion, de dévouement, de connexion, de prière, de reliance à soi-même, aux esprits de la nature et aussi aux divinités que l'on a envie d'invoquer. Alors on va parler de rituel parce que cette célébration, elle arrive à des dates qui sont régulières. Mmh. Et notamment le rituel du sabbat des sorcières, ce sont des rituels qui sont des rituels mensuels à la nouvelle lune ou à la pleine lune, essentiellement à la pleine lune d'ailleurs dans un premier temps, et puis qui sont des moments où on va se retrouver entre sœurs ou entre sorcières, ou bien des moments où on va se retrouver seul à faire ces actes de dévotion et à vouloir communier avec la nature, mais aussi obtenir des transformations de cette nature par nos invocations et par nos actes quelque part.
Oui, donc c'est vraiment intéressant de noter qu'à la fois il y a des rituels individuels et des rituels collectifs. Alors comme vous le dites, effectivement, il y a différents moments propices à la célébration de ces rituels. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on appelle la roue de l'année, qui est très importante pour les sorcières ?
Alors la roue de l'année, oui, c'est très important pour les sorcières et puis même de manière plus générale dans le chamanisme, parce que ça part du principe que la nature, elle a ses lois, elle a ses règles. Et ça va s'appuyer aussi sur toute la connaissance que l'on a qui est plurimillénaire de l'astrologie. Si on se met dans la logique de la sorcière et aussi du chamanisme ou bien de l'astrologie, la nouvelle année, elle commence avec le printemps. Elle ne commence pas comme ça au plein milieu de l'hiver, elle va commencer notamment avec le signe du bélier et au printemps, quand avec la montée de la sève, la nature s'éveille. Ce cycle, il va se dérouler, il va célébrer donc plusieurs étapes clés de l'année. On a des fêtes celtes, mais simplement aussi au-delà de ces fêtes celtes, si on s'appuie sur cette logique de l'année, on va repartir donc du printemps jusqu'à l'acmé de l'été, qui va porter les fruits. Et donc là, on est vraiment dans des rituels de célébration de la nature et de l'abondance. Et puis ensuite, avec l'automne, on va aller célébrer les récoltes. On va célébrer de plus en plus la descente à l'intérieur de soi et les forces internes. On va s'éveiller au pouvoir intérieur. Et plus on va aller avec l'hiver, et plus on va aller dans des pratiques qui sont des pratiques de l'ombre, des pratiques de pouvoir intérieur, des pratiques aussi de reliance dans le foyer, non plus de célébration extérieure, mais dans le foyer. Donc on va retrouver les invocations, aussi les rituels autour de la parole, du verbe à travers les contes. Et puis, à la fin de l'hiver, tout ce qui a germé quelque part, tous les songes, toutes les nouvelles images, tout ce qui nous a été donné dans notre inconscient ou donné dans l'ombre, va reprendre forme avec le printemps.
Alors on imagine qu'il faut se préparer à ces rituels. Comment le fait-on, Katia Boukchich ?
Alors les rituels, d'abord, la première chose, c'est qu'on va se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ? Quel est notre souhait et quel est notre désir ?
Et notre intention.
Exactement, on va se poser et se centrer sur une intention qui est très forte, une intention d'obtenir quelque chose, une intention peut-être de rendre grâce. Alors plus précisément, on peut dire j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ou j'ai envie de créer un nouveau projet, ou simplement j'ai envie de rendre grâce, comme à cette période de l'année, à mes ancêtres. Donc ce sont trois rituels qui sont totalement différents. Pour les réaliser, on va d'abord se poser la question qu'est-ce qu'on veut mettre sur notre autel.
Alors, rappelez-nous ce qu'est l'Hôtel des Sorcières.
Alors, l'Hôtel des Sorcières, ça va être un espace sacré, à l'intérieur ou à l'extérieur, sur lequel on va assembler quelque part nos objets que l'on dit magiques, que l'on va investir d'une intention. Alors, on va vouloir notamment à reproduire la roue des éléments, retrouver un équilibre. Représenter l'eau, par exemple, avec une petite coupelle d'eau, ou un verre de lait, ou un verre de vin. On va vouloir représenter le feu avec une bougie, ou bien simplement avec le feu dans l'âtre d'une cheminée, ou bien même la représentation d'un soleil. On va vouloir évoquer la terre, peut-être, avec des pierres semi-précieuses, ou alors de l'argile, ou bien simplement des objets de bois. Et puis, on va vouloir représenter l'air. Alors, l'air, il a cette particularité d'être partout, mais on peut le représenter avec des oiseaux, une colombe, un corbeau, ou bien des plumes d'oiseaux, selon la nature du rituel. Et sur cet autel, on va déposer ensuite des objets qui nous sont propres, des objets qui nous ont été donnés lors de célébrations, des objets peut-être qui nous ont été offerts par nos maîtres ou d'autres sorcières, des objets que l'on a confectionnés, comme un tambour, par exemple, et aussi des objets qu'on a pu obtenir et qui, pour nous, ont une symbolique particulière. Souvent, on va retrouver, par exemple, des objets de femmes, de terre, de glaise, dans une posture qui invoque la lune, donc avec les mains vers le ciel, dans une posture dont on dit qu'elles font tomber la lune sur terre, donc une posture d'invocation. Et puis, voilà, tout ce qui nous plaît aussi, tout ce qu'on a envie, on peut y faire figurer l'abondance de la nature, une corbeille de fruits, de légumes, et on peut y mettre des photos de famille, on peut y mettre des représentations de déesses, de divinités, des dieux, quels qu'ils soient. Et tout ça, c'est une manière pour nous de recréer le monde, quelque part, mais surtout de recréer notre monde et de dire « qu'est-ce qui, pour moi, est sacré ?» Donc un hôtel, c'est un espace sacré sur lequel on va disposer tout ce qui est pour nous de plus sacré, tout ce que l'on aime. Et tout ce qu'aussi on a envie d'invoquer, de rassembler, de manière à recréer un microcosme et un micro-monde.
Alors le préalable aussi, avant les rituels, c'est la purification. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui. Alors avant d'entrer dans un rituel, on va prendre le temps d'ouvrir un cercle sacré. Et là, on va s'aider de l'encens, on va s'aider de la sauge, par exemple, qu'on peut faire sécher. Donc ça, c'est de la sauge du jardin. On va la rassembler en bâtonnets, on la fait sécher, puis on la brûle. On peut aussi ouvrir un rituel grâce au pouvoir de purification de la prière. C'est aussi possible. Il y a aussi certaines sorcières ou praticiens qui vont asperger l'espace d'eau. Chacun a son outil de purification. L'idée, c'est de dire « j'entre dans un espace sacré qui va devenir vierge de tout pour pouvoir y dérouler mon intention et ma pratique magique. »
Alors revenons sur différents rituels qui sont très importants et commençons peut-être avec ce premier symbole que les femmes peuvent toutes s'approprier puisqu'il s'agit de la lune, qui est l'astre de toutes les fascinations et depuis toujours. Alors, dans votre livre, « L'éveil des sorcières », il y a un paragraphe qui m'a vraiment interpellée et que j'aimerais vous lire, car je trouve qu'il est très très beau et qu'il nous fait prendre conscience justement de cette fascination pour la lune depuis la nuit des temps. Cette ancienne pratique des femmes kabyles, les magiciennes ou sorcières, qui consistait à faire descendre la lune sur terre, remonte au temps ancien et déjà en Perse, en Grèce, chez les Romains, des témoignages ont été recueillis. Dans Histoire naturelle, Pline l'Ancien raconte comment la magie est venue à Telmès et décrit la création d'une comédie représentant des cérémonies mystérieuses par lesquelles les femmes faisaient descendre la lune sur terre. Donc, comment vous expliquez, Katia Boukchiche, cette fascination pour la lune depuis toujours ? Platon, Socrate, c'est quand même de grandes figures de sagesse qui sont très lointaines aujourd'hui.
Oui, alors c'est aussi, ça nous vient de très très loin quand on étudie les sociétés matriarcales. On retrouve des gravures et on retrouve aussi la lune incurvée sur des morceaux de bâton et les cycles de la lune transcrites et qui sont restés à la postérité quelque part pour nous montrer cette symbiose entre la femme et la lune. Quand on sait que le cycle des femmes est environ de 28 jours, comme le cycle de la lune. Et grâce à cet héritage et à ce legs hein, des sociétés matriarcales, les femmes ont pu s'éveiller et s'apercevoir de cette synchronicité entre leur cycle et le cycle lunaire. En même temps aussi, la lune, c'est visuellement ce qui nous permet de voir en pleine nuit, ce qui, comme la sorcière quelque part, nous permet de fêter les sabbats, les célébrations nocturnes, et qui est donc un astre de guidance. En plus de tout ça, la pleine lune, c'est aussi la lune et la pleine lune en particulier, c'est aussi un moment qui va être qui va soulever beaucoup d'émotions aussi, qui va agiter, qui va empêcher le sommeil. Et donc c'est un astre qui va venir nous titiller dans notre corps émotionnel, nous titiller aussi dans nos envies de nous dire il y a quelque chose dans la nuit qui nous interpelle. Quel est ce mystère? Quel est le mystère de l'astre lunaire? Quels sont ses mystères? Qu'est-ce qu'il permet? Et souvent aussi, on a associé, parce qu'on a associé la lune avec le cycle des femmes, on a associé la lune aussi à la fertilité. Et donc, les premiers rituels étaient des rituels aussi de fertilité, où les femmes demandaient quelque part à avoir un ventre aussi rond que l'astre lunaire. Et ça, c'est d'une grande beauté, parce que quand on regarde la beauté de nos cycles, la beauté du cycle lunaire, aussi la rondeur que l'on a dans nos ovaires, comme l'astre de la lune, cette beauté aussi de la fertilité, de l'imaginaire qui est lié à l'astre lunaire, pas uniquement la fertilité en termes de procréation. Il y a toute une dimension magique et aussi poétique dans cette fascination. Et puis bien sûr, on retrouve cette capacité à célébrer donc les sabbats et puis à connaître les qualités de l'astre lunaire. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ces 28 jours de danse, la lune, elle a différents temps, différents moments qui vont nous permettre de faire des rituels différents. Ça veut dire qu'on ne fait pas le même type de rituel à la nouvelle lune, qui est une énergie naissante comme le printemps. On ne va pas faire la même chose à la pleine lune, qui est plutôt une énergie d'abondance, durant laquelle on va plutôt demander...
Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.